France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Une réponse loin des attentes, voilà ce que dit l'opposition après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Avec la volonté de mettre fin à 5 mois de crise des gilets jaunes, le président promet une baisse de l'impôt sur le revenu, la réindexation des retraites, la garantie des pensions alimentaires, des classes à 24 élèves en primaire. Il évoque l'allongement de la durée de cotisation pour partir à la retraite sans pour autant toucher à l'âge légal. Seul renoncement, le chef de l'État se dit prêt à abandonner l'objectif de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Mais au-delà de ça, Emmanuel Macron prend surtout le temps de défendre son bilan.
Je pense très profondément que les orientations prises durant ces 2 premières années, à bien des égards, ont été justes. Mettre l'école, le mérite, le travail au cœur de notre ambition était indispensable. Moderniser notre économie, réduire nos déficits publics, réarticuler une vraie ambition européenne face à toutes ces menaces étaient, je le crois très profondément, de bonnes orientations. Je crois donc que ces fondamentaux des 2 premières années doivent non seulement être préservés, mais intensifiés.
Les annonces du chef de l'État, on y revient plus longuement dans le journal de 6h30. Après 26 ans de prison, le faux docteur Roman va retrouver la liberté. Condamné à perpétuité pour avoir tué toute sa famille, Jean-Claude Roman obtient une libération conditionnelle. Il devrait sortir de prison avant l'été. Il a payé les 4 millions d'euros de caution. Carlos Ghosn, lui, n'est déjà plus en prison. L'ancien patron de Renault-Nissan, soupçonné de détournement de fonds, est assigné à résidence et n'a pas le droit de quitter le Japon. Le bilan revu à la baisse au Sri Lanka, mais il reste colossal. Les attentats de dimanche revendiqués par le groupe État islamique ont fait 253 morts et des centaines de blessés. Une foule immense déferle à Khartoum. Des milliers de Soudanais dans la rue demandent à l'armée de céder le pouvoir à une autorité civile.
Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron.
L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions.
Est-ce que tu voudrais être grande ?
Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ?
Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast.
Et à 6h02 sur France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Bande dessinée et histoire au programme du réveil culturel aujourd'hui. Effectivement, il y a 50 ans, le 28 avril 1969, pour être précis, à l'issue d'un référendum portant sur le transfert de certains pouvoirs aux régions et la fusion du Sénat avec le Conseil économique et social, le général de Gaulle quitte le pouvoir définitivement. Il avait annoncé son intention de démissionner en cas de victoire du non, et c'est le non qui l'emporta. Et un peu plus d'une année plus tard, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle meurt dans sa demeure à Colombey-les-Deux-Églises. Comment raconter aujourd'hui la vie de cet homme intimement lié à l'histoire de la France du XXe siècle? Le héros des deux guerres, le sauveur de l'honneur de la France, l'homme des décolonisations, l'homme providentiel d'un pays en crise, mais aussi de Gaulle, le vieux président vieille France conspué en 1968. En 4 tomes édités par Grand Angle, la vie du général de Gaulle résumée en bande dessinée avec au scénario l'historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle, Jean-Yves Le Naou, et au dessin Claude Plumaille, qui sont mes 2 invités ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
Le général de Gaulle raconté en bande dessinée. Bonjour Claude Plumaille, bonjour Jean-Yves Le Naour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, comment restituer le parcours du général ? Alors, je suppose que c'est l'historien qui s'est occupé du scénario.
Mais oui, tout à fait. Alors, comment restituer ? Ben, écoutez, ce qu'on voulait pas faire, c'était une biographie classique, un récit classique qui commencerait à la naissance et qui aboutirait à la mort.
Donc, c'est pas une adaptation en bande dessinée des mémoires du général ?
Non, pas du tout. On s'en est servi, hein, cependant, bien sûr. On s'en est servi, évidemment, ces mémoires d'espoir, notamment. Mais ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose de plus pointilliste. Des moments importants de sa vie et de l'histoire de la France, puisque finalement à travers la vie de Gaulle on peut raconter l'histoire de France entre 14 et 70. Donc un moment peut-être tragique pour l'histoire de France, la Première Guerre mondiale, le moment où il a été prisonnier, ou le moment où peut-être il a moins pesé sur l'histoire, effectivement, mais qui a été un moment extrêmement formateur pour lui. Et sans cette captivité, il n'y aurait peut-être pas eu le général de 1940.
Et déjà, vous mettez en avant son côté héroïque.
Alors oui, héroïque, mais il y a un côté très vieille France aussi. Mmh. C'est-à-dire que au départ, il part en guerre vraiment avec comme tout l'état-major, ces idées de sacrifice, cette idée qu'on doit être à la tête de ces hommes, gants blancs, avec l'épée à la main et avec des charges de cavalerie, etc. Et baïonnette au canon pour l'infanterie. Et on va découvrir une guerre qui est une guerre industrielle, qui est une guerre moderne et qui n'a rien à voir du tout avec la guerre napoléonienne qui est dans les esprits. C'est seulement finalement dans la captivité que De Gaulle se met à réfléchir et à critiquer ses chefs. Et ça, il commence finalement à être plus politique que militaire. Voilà. Donc après, on raconte pas l'entre-deux-guerres. On a une autre BD sur 1940,
le moment décisif,
le moment où tout s'écroule, et puis et lui qui maintient la lumière de l'espérance avec cet appel du 18 juin. On a le moment de 44, extrêmement important, parce qu'il est oublié. Quand on parle de Gaulle, pour tous les Français, évidemment, c'est l'appel du 18 juin, c'est aussi le fondateur de la 5e République, mais c'est l'appel du 18 juin d'abord. Et on oublie 44. Juin 44, c'est un moment extrêmement important, puisque c'est là où il tient tête à Eisenhower, il tient tête à Churchill, et c'est le moment où il pose la France, vraiment, l'impose dans le camp des vainqueurs. Alors qu'il voulait la placer, eux, dans le camp des pays libérés, gérés par une administration interalliée, et donc elle aura été placée de fait dans le camp des, non pas des ennemis, mais des pays libérés qui ne comptaient plus. Et il l'impose dans le camp des vainqueurs avec un strapontin. Et pour ça, pour tenir tête aux Américains, aux Anglais, alors qu'il en dépendait complètement, financièrement, militairement, etc., c'est une bataille extrêmement rude qui a lieu les 4 et 5 juin, à la veille du débarquement. Et puis enfin, le dernier tome, centré sur mai 68, la fin, une fin un peu peut-être un peu pitoyable pour un homme qui a été si grand, mais c'est vrai qu'il ne comprenait plus son époque. Et ceci dit, il sort de mai 68 par le haut quand même, puisque il y a ces fameuses élections de juin 68 qui lui font un triomphe, hein, ces fameuses élections de la peur.
Les 4 tomes sont effectivement basés sur des dates clés de la vie de Charles de Gaulle. Chaque tome se termine avec un petit cahier où on a des documents, des photos, c'est restitué. Alors il y a un côté didactique, comme si c'était une envie de raconter le général de Gaulle à ceux qui n'ont pas connu de Gaulle.
Alors, ben évidemment, parce que vous savez, des biographies, il y en a plein de Gaulle et de très bonnes. Alors, si on veut se documenter sur De Gaulle, si on veut lire sur De Gaulle, ben oui, prenons des livres. Mais la BD, c'est aussi un média qui est tourné vers un public plus jeune. Ben, moi, j'ai été professeur, donc je sais que les jeunes lisent de moins en moins. Et par contre, ils lisent de la BD. Et lire de la BD, c'est aussi une façon de faire de la BD, c'est aussi une façon de transmettre, je crois. Et puis lire de la BD, c'est une façon aussi d'apprendre.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Charles de Gaulle. C'est le titre de la BD, des quatre tomes de la BD. Vous êtes au dessin, Claude Plumail. Comment le duo a été formé?
Bah là, c'est par l'entremise de notre éditeur, en fait.
Grand Angle.
Donc. Grand Angle, et donc Hervé Richer, qui est notre directeur de collection, nous a mis en relation. Il avait vu ce que je faisais déjà, et on avait d'abord travaillé sur les taxis de la Marne avec Jean-Yves. Donc on a poursuivi avec Charles de Gaulle. Voilà, c'est comme ça un petit peu que ça s'est passé. C'est souvent le cas, hein. Souvent l'éditeur met en relation les auteurs. Enfin, c'est certainement une.
Et comment on travaille ensemble, quoi. Est-ce que le scénariste historien Jean-Yves Le Naour, vous avez tout écrit et vous avez envoyé ça au dessinateur Claude Plumail, et vous vous êtes occupé de tout, c'est-à-dire du découpage, bien sûr des dessins, ou est-ce que c'était un travail en commun et en continu?
Ah bah de toute façon, oui, Jean-Yves avait écrit complètement l'histoire, enfin tome par tome évidemment. Ensuite, il y a quand même une discussion un petit peu avec Hervé. Bon, il met les choses au point, mais Jean-Yves, c'est lui qui écrit évidemment toute l'histoire. Et ensuite, il me transmet le scénario entièrement fait. Et ensuite, moi, comme vous dites, je me suis occupé du reste, c'est-à-dire je fais la mise en scène, je mets en image en fait l'histoire qu'il raconte par l'écrit. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille.
Ensuite, entouré de documents, de photographies, de toutes les époques parcourues par la saga de Gaulle.
Ben mon challenge, moi, c'était en fait, je voulais pas utiliser les photos. Je ne voulais pas être prisonnier des photos. La bande dessinée reste un art de l'interprétation graphique des choses. Donc moi, j'interprétais Charles de Gaulle avec évidemment des documents à l'appui pour en tirer les caractéristiques principales. Mais je ne travaillais pas avec des photos. Et donc ensuite, une fois que je fais ce travail d'interprétation, une fois que j'ai réalisé la mise en scène, je propose à Jean-Yves, on en discute, et puis s'il y a des choses que je n'avais pas bien comprises et qu'on est obligé de corriger, à ce moment-là, je corrige. Mais voilà, il y a toujours, entre nous deux, des informations qui passent, de manière à ce que je dessine son histoire. On doit absolument.
Non, mais là, en l'occurrence, c'est l'histoire du général de Gaulle. Oui. Est-ce que votre vision du général de Gaulle a changé, a évolué après ces quatre bandes dessinées réalisées autour de sa vie, son œuvre, ses combats surtout?
Ah oui, bah de toute façon, ce qui m'avait surtout plu au tout départ, quand on me l'a proposé, c'était parce que c'était le général de Gaulle. Mon père m'en avait beaucoup parlé, et donc je me suis dit, c'est l'occasion d'en connaître encore davantage sur lui. Ça me faisait plaisir, en fait, de lui faire plaisir. Et donc j'ai toujours été intéressé par l'histoire, donc voilà, c'est comme ça que ça m'a plu. Hein. Voilà.
Alors pourquoi ça s'appelle le général de Gaulle? Il y a pas de, c'est pas le héros de Gaulle, c'est pas grandeur et décadence du général de Gaulle, ça reste très neutre.
Et oui, neutre, parce qu'effectivement, si vous aviez choisi...
Qu'on puisse rester neutre, oui, dans l'histoire.
Bien sûr. L'historien, lui, officiellement, doit l'être, il doit être impartial, évidemment, mais tout ça, c'est évidemment impossible à tenir, on est toujours de son temps, et on a toujours un point de vue. Mais effectivement, si on avait choisi un sous-titre, il y aurait eu une ligne, un engagement, et comment dire, on nous l'a reproché d'ailleurs, parfois, sur un tome, je pense au tome 2, on a eu des critiques comme vous êtes trop louangeur, vous en faites un héros, il a toujours raison, etc. Et puis le tome 4, on a eu d'autres critiques disant vraiment vous le présentez comme un dictateur, c'est inacceptable, vous le présentez comme un petit vieux gâteux, etc. Donc ce qu'on voulait, c'était aussi être libre, parce que vous avez raison quand vous dites c'est l'histoire du général de Gaulle. Oui, mais c'est l'histoire du général de Gaulle en BD, c'est-à-dire que évidemment, comme l'a dit Claude, il y a une mise en scène et il y a les codes de la fiction, et donc ça sera jamais l'histoire pur à 100% tiré des archives. Fatalement, il y a des pauses, il y a des mots qu'on lui fait dire. Il y a était-il debout, était-il assis, a-t-il tapé du poing sur la table. Il n'y a pas de témoin pour raconter ça, même quand on sait ce qui s'est passé. Il faut donc aller vers le vraisemblable à défaut du vrai.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est quand, après le départ du général de Gaulle, on revient sur son parcours, et notamment à travers ces quatre bandes dessinées éditées par Grand Angle, avec au scénario l'historien Jean-Yves Le Naour et au dessin Claude Plumaille, mes deux invités d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une bande dessinée contemporaine? Autrement dit, aurait-on fait la même BD il y a 20 ans? Racontera-t-on la même histoire du général de Gaulle dans 20 ans, Jean-Yves Le Naour?
Effectivement, vous faites bien de poser la question, mais c'est la question qui vaut pour tout regard sur le passé, c'est-à-dire que une BD, une production, une œuvre est toujours de son temps, que ce soit un roman, que ce soit un film, que ce soit une bande dessinée, c'est toujours écrit à un instant T. Et quand on écrit, moi je suis historien, on écrit sur la Première Guerre mondiale, on écrit évidemment différemment aujourd'hui qu'en 1920 ou qu'en 1945. Effectivement, là, on a du recul effectivement, parce que il y a des choses qui sont passées au tamis de l'histoire, alors que quand un personnage est héroïsé et que vous écrivez au lendemain de sa mort, regardez, hein, il y a eu une censure de Harakiri qui a disparu parce que en une ils ont osé se moquer du général de Gaulle, et encore c'était un peu soft, hein, à la mort du général de Gaulle, il y a eu cette fusion de deux informations, il y avait eu un incendie dans une discothèque et la mort du général de Gaulle. Donc il était difficile peut-être en 70 de faire un récit qui soit le plus historique possible et qui en même temps respecte le code narratif de la fiction, etc. Je pense, puisque dans les récits historiques qu'on avait dans les années 70, dans Spirou, dans Tintin, les fameuses histoires de l'oncle Paul, etc., c'était des récits qui étaient tout à fait héroïque, c'était la tranchée des baïonnettes, on mourait, le sacrifice, etc. Et il y avait assez peu de distance, et on ne mettait pas les personnages, ils n'étaient pas en ombre et lumière, quoi. Concrètement, la Première Guerre mondiale du général de Gaulle, c'était quelque chose d'assez ignoré, d'assez traumatisant pour lui. On n'aurait pas pu raconter ça vraiment de son vivant. C'était quelque chose qu'il cachait. Pour lui, c'était sa grande blessure. C'était une humiliation, un déshonneur d'avoir été réduit à la captivité. Aujourd'hui, on ne voit plus un prisonnier pendant la Première Guerre mondiale comme quelqu'un de déshonoré. Mais il faut imaginer qu'à la suite de la Première Guerre mondiale, par exemple, un officier perdait son droit à l'avancement, ses années de captivité ne comptaient pas dans sa retraite, etc., etc. Oui, pour De Gaulle, c'était une grande souffrance, et je pense que ce passage de sa vie, à la fois n'intéressait pas parce qu'il n'était pas peut-être au premier plan, et en même temps, il ne s'agissait pas de salir cet homme.
Autour de Gaulle, il y aura une soirée spéciale sur France Culture. On va parler aussi du général de Gaulle, visionnaire de l'Europe. Hein. Ce dimanche, soirée spéciale sur France Culture, une soirée spéciale qui va commencer avec une soirée qui commencera avec Théâtre et Compagnie, une adaptation des Chiens de Canaba, vous savez, ce livre d'André Malraux. André Malraux qui créa le ministère de la Culture en 59, qui fut le premier ministre de la Culture, mais le 11 décembre 1969, il est allé voir le général chez lui, à la Boisserie. Ils vont passer une soirée à discuter, et à partir de cet échange, à partir de cette soirée, Malraux va écrire un livre. Alors, c'est un livre entre fiction et réalité, bien entendu, mais là, par exemple, ce qui ressort de cet échange, c'est quand même le général de Gaulle et sa vision de l'Europe. Donc, on l'entendra, et d'ailleurs, tout de suite après cette pièce de théâtre, il y aura une soirée animée par Guillaume Herner, qui a adapté justement les Chiens de Canaba, et Emmanuel Laurentin avec notamment Régis Debray. Effectivement, aujourd'hui, puisqu'on est dans cette Europe qui a du mal à se former, le général de Gaulle devient une référence en ce qui concerne l'Europe. Est-ce qu'il y avait des thèmes d'aujourd'hui qui vous passionnaient pour raconter, pour revenir sur la carrière du général de Gaulle à travers cette bande dessinée ?
C'est pas le présent qui m'a porté pour parler du passé, mais ceci dit, le présent effectivement est toujours là, et c'est par le présent qu'on lit le passé. Alors vous avez raison de dire que de Gaulle finalement n'est pas tout à fait mort et qu'il continue à inspirer un certain nombre de politiques, mais aujourd'hui on voit que il y a une certaine forme de trahison peut-être de Gaulle, puisque aujourd'hui ses idées sur l'Europe, elles sont essentiellement c'est plutôt l'extrême droit qui s'en revendique, c'est-à-dire les héritiers de l'OAS et de l'Algérie française qui aujourd'hui parlent d'Europe des patries, etc. Mais ils tentent d'annexer de Gaulle, alors que de Gaulle, évidemment, ses idées, elles valaient pour les années 60. Il ne convient pas de faire un parallèle entre les années 60 et aujourd'hui.
Mais il était visionnaire, parce qu'il disait, il ne s'agit plus de savoir si la France fera l'Europe, il s'agit de comprendre qu'elle est menacée de mort par la mort de l'Europe. Cette phrase du général de Gaulle, elle est brûlante d'actualité.
Oui, volant d'actualité, mais là on est encore dans un contexte particulier qui est celui de la guerre froide, qui est celui d'une Europe qui est complètement occidentale, qui est complètement alignée sur les États-Unis, et de l'autre côté, du rideau de fer, il y a une Europe qui est complètement alignée, enfin elle n'est pas alignée, elle est caporalisée, intégrée dans l'Empire soviétique. Donc ce que veut de Gaulle, c'est une Europe qui soit européenne, c'est les mots qu'il emploie. Un jour peut-être surmonter ce rideau de fer, d'où ses visites en Roumanie, en Pologne, etc., mais une Europe qui soit européenne, qui soit puissante et puissance, c'est-à-dire dégagée à la fois.
Et ça, c'est présent dans votre bande dessinée. Un certain humour d'ailleurs, hein, puisqu'il était applaudi à un moment où il était beaucoup moins en France.
Oui. Effectivement. Et puis l'autre point sur de Gaulle sur l'Europe, donc à part l'Europe qui soit détachée des États-Unis, de l'URSS, c'est une Europe confédérale. C'est absolument pas un fédéraliste, de Gaulle. Et dernier point, il ne veut pas de l'intégration du Royaume-Uni. Il considère que le Royaume-Uni, cheval de Troie des Américains, mais surtout aussi sa mission historique, ce sera de paralyser la construction politique de l'Europe, de n'en faire qu'un marché. Donc il a mis deux reprises son veto à l'intégration du Royaume-Uni.
À une époque où le Brexit s'annonce plus compliqué que prévu, comment ne pas penser au général de Gaulle ? Claude Plumail, pour terminer, ça a été facile de trouver le général de Gaulle crayonné, dessiné par vous ?
Je me suis appuyé évidemment sur les photos pour vous dire, avoir les caractéristiques principales. C'est une fois qu'on a trouvé le truc, ça va tout seul. Mais pour la première fois dans une histoire, dans une bande dessinée ou des bandes dessinées, j'avais à faire vieillir un personnage. Mmh. Et là, ça a été en fait un challenge pour moi, parce que c'est pas la coutume dans la bande dessinée, quoi.
Bah oui.
Donc j'ai fait vieillir.
Et même les deux. On peut même dire les deux, parce que pour ceux pour qui le général de Gaulle, c'est d'abord l'appel du 18 juin, vous l'avez d'abord fait rajeunir dans les premiers tomes,
exactement.
Et après le faire vieillir jusqu'à la fin.
Voilà, exactement. Puisqu'il a 25 ans, hein, quand il est, c'est les tout débuts. Donc, comme vous dites, il a fallu le rajeunir et puis progressivement ajouter des traits, et puis jusqu'à le vieillir, jusqu'à le faire les cheveux blancs et tout ça. Enfin voilà, c'était vraiment mon challenge pour cette dans cette histoire graphiquement.
Et alors, et les ayants droit, les historiens et les éditeurs, ils avaient un droit de regard sur votre représentation du général de Gaulle?
On m'a pas fait de remarques. Enfin, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit non, c'est pas possible, il ne peut pas être comme ça. Enfin, je veux dire, ça a été non. Même à un moment donné, on était en relation avec la fondation de Gaulle.
Vous étiez soutenu par la fondation.
Voilà, fondation de Gaulle. Et non, ils m'ont pas fait de reproches. J'ai été exempt de reproches de ce côté-là.
Bravo. C'est que le scénario est excellent.
Voilà.
Alors, s'il fallait parler de ces quatre bandes dessinées pour terminer, diriez-vous que c'est une bande dessinée qui retrace le parcours du général de Gaulle et qu'à la fin de ces quatre tomes, on comprend qui était le général de Gaulle ou encore mieux que c'est une bande dessinée sur le gaullisme et qu'à la fin, on sait ce que c'est que le gaullisme. Ah, ce qui est pas la même chose, hein.
Non, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, le gaullisme, on a beaucoup de mal à le définir. On a beaucoup de mal à le définir. Et un gaullisme de gauche aussi, avec Louis Vallon, etc. Donc, c'est comme le macronisme. On sait pas trop ce que c'est. Et le gaullisme, beaucoup de gens vont s'en réclamer après la mort de Gaulle. Mais de Gaulle disait lui-même que le gaullisme n'existait pas. Alors donc, c'est très difficile à dire ce que c'est que le gaullisme. Alors moi, je dirais que c'est pas seulement une BD sur De Gaulle, c'est une BD sur l'histoire de France. À travers le personnage de De Gaulle, on va découvrir des moments tragiques et des moments importants, essentiels de notre histoire.
Jean-Yves Le Naour, merci beaucoup d'être venu en compagnie du dessinateur Claude Plumaille. Je rappelle que Charles de Gaulle est une bande dessinée en 4 tomes éditée par Grand Angle. Et je vous rappelle la soirée spéciale sur France Culture ce dimanche avec Les chaînes qu'on abat, donc la pièce adaptée par Guillaume Erner à partir du livre d'André Malraux, suivie d'une rencontre animée par le même Guillaume Erner en compagnie d'Emmanuel Laurentin avec des invités, notamment Régis Debray. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il y a tout juste 50 ans, le 28 avril 1969, le général de Gaulle quitte le pouvoir. Le 11 décembre, il passe une journée avec André Malraux, ministre de la Culture. Les deux hommes reviennent sur des notions essentielles, le peuple, la démocratie, l'Europe.
Oh, la France peut encore étonner le monde, mais plus tard. Elle va tout négocier avec les Américains et même les Russes, avec les Allemands et les communistes. C'est commencé.
Les chaînes qu'on abat, adaptation Guillaume Erner, un dialogue interprété par Robin Renucci et Gérard de Sarthe, enregistré en public à l'Espace Cardin, ce dimanche de 21h à minuit et sur franceculture.fr.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren, ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Une heure de discours, une heure et demie de questions-réponses. Emmanuel Macron livre ses mesures pour résoudre la crise des gilets jaunes devant les journalistes. Le président se défend d'avoir fait fausse route depuis 2 ans et promet une nouvelle méthode. Zoom sur ses annonces en matière de démocratie dès le début de ce journal. Mythomane et surtout meurtrier, Jean-Claude Roman va pouvoir sortir de prison. 26 ans après avoir tué toute sa famille, le faux médecin de l'OMS obtient la liberté conditionnelle. Dans cette édition, nous ferons aussi le point sur la situation en Syrie où Bachar al-Assad cramponné au pouvoir fait figure d'exception dans le monde arabe. Et puis nous irons à Alger où le 10e vendredi de manifestation se prépare. Il l'assure, il a senti dans sa chair la colère des Français. Emmanuel Macron livre ses réponses après 5 mois de crise des gilets jaunes et un grand débat. Le président appelle à travailler plus pour financer la baisse d'impôts, notamment sur le revenu, réindexation des retraites, maintien de l'âge de départ, moratoire sur les fermetures d'écoles, voilà pour les grandes lignes. Et côté démocratie, qu'en est-il? Eh bien Emmanuel Macron refuse presque systématiquement, Karine Bécard, toute ouverture démocratique.
Un peu plus de proportionnel, de l'ordre de 20%, et 25 à 30% de parlementaires en moins. Voilà ce qu'a confirmé Emmanuel Macron, et c'est à peu près tout. Parce que, sur la prise en compte du vote blanc, par exemple...
J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi, et je ne la retiendrai pas.
Même chose avec le vote obligatoire, pour pousser les électeurs à revenir aux urnes. Là encore...
Je ne retiendrai pas cette option. Je ne crois pas qu'on réponde à la crise démocratique par la contrainte.
Alors qu'est-ce qui reste pour réoxygéner la démocratie justement? Le RIC, évidemment, le référendum d'initiative citoyenne, mais porte close également.
Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie.
Ah! Par l'intermédiaire du RIP, le référendum d'initiative partagée, Emmanuel Macron est prêt à abaisser à 1 million au lieu de 4,5 le nombre de signataires pour déclencher le dispositif. En revanche, pour sortir du grand débat, l'idée d'un référendum avec plusieurs questions, une fois de plus...
La décision d'en appeler au référendum, elle est en effet au titre de notre Constitution à la main du président de la République. Aujourd'hui, je n'ai pas retenu cette option.
Donc on ne s'y trompe pas, le président veut bien d'une démocratie un peu plus délibérée, libérative, mais certainement pas participative.
Karine Bécard, seul renoncement, Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher son objectif de 120 000 suppressions de postes chez les fonctionnaires. Finalement, le principal changement, c'est plutôt sur la forme que sur le fond, note le politologue Stéphane Rosès, président de CAP Conseil Analyse et Perspective.
Sur les deux revendications essentielles, c'est-à-dire la question de la justice fiscale et la question au travers du RIC, au fond, de savoir si le souverain est bien dépendant de la souveraineté du peuple, il n'aura pas bougé. En fait, le mouvement qu'il fait, d'ailleurs dans une contradiction entre l'ambition affichée, nouvel acte de la République et des mesures au fond assez déceptives, la grande modification, c'est une modification de ton, de style. Il dit « j'ai changé, j'ai appris des choses sur la France, c'est même ma fonction ». Il rend même hommage à ses débuts aux revendications des gilets jaunes. Il souhaite humaniser la transformation du pays. Il souhaite mettre un peu plus de justice. Mais au fond, les mesures sont quand même très homéopathiques.
Le politologue Stéphane Rosès avec Stanislas Vazak. Ces mesures jugées homéopathiques à l'instant, l'opposition les trouve bien insuffisantes, éloignées des attentes des Français et franchement pas rassurantes pour l'avenir. Pour Gabrielle Siri, elle est porte-parole du Parti Socialiste.
Ce qui me rend le plus triste, c'est l'allongement de la durée du travail. Et comme par hasard, une semaine après que ça a été évoqué dans la presse par Monsieur Roux Bézieux qui dirige le MEDEF. Donc la question de la pénibilité au travail n'a même pas été évoquée. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes sont censées travailler jusqu'à 64 ans pour avoir une retraite décente, alors qu'on sait qu'entre un ouvrier et un cadre, c'est 10 ans d'espérance de vie de différence. Et puis surtout, c'est présenté comme une évidence économique et ça, c'est insupportable. De nombreuses études ont montré en fait que la baisse du temps de travail avait créé des emplois. Surtout ce qu'on a constaté déjà avec l'allongement récent de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est une hausse des arrêts maladie, une hausse de leurs coûts. Les classes moyennes vont devoir autofinancer leur réduction d'impôts en partant plus tard à la retraite et sur les rotules.
La porte-parole du PS, Gabriel Siri, avec Steven Gouaillet. On va revenir encore largement sur les annonces du président de la République tout au long de la matinée sur France Culture. 26 ans après ses crimes, la justice va libérer Jean-Claude Roman, le faux médecin condamné à perpétuité pour avoir tué son épouse, ses deux enfants et ses parents, vient d'obtenir une libération conditionnelle. Il devrait sortir avant l'été, son avocat Jean-Louis Abad.
Il est bouleversé, il repense aux siens. Je vous rappelle tout de même que c'est un drame familial, mais qui touche des gens qu'il a aimés, des gens qui l'ont aimé. Et donc, il n'y a pas de triomphalisme, ni chez lui, ni chez moi. Il ne peut y avoir de triomphalisme chez personne dans une affaire aussi douloureuse que celle-ci.
Le Sri Lanka achève son macabre bilan. Les autopsies sont terminées 5 jours après les attentats revendiqués par Daesh. Ils ont fait 253 morts et des centaines de blessés. Et bilan toujours très lourd, mais revu à la baisse. Le cyclone Kenneth frappe le Mozambique. Arbres arrachés, coupures d'électricité, les vents violents ont touché hier soir le nord du pays. Les Nations Unies redoutent des inondations et des glissements de terrain à la frontière avec la Tanzanie. L'avenir de la Syrie en discussion au Kazakhstan. La Russie, l'Iran et la Turquie sont réunis depuis hier pour une conférence, quelques semaines après la perte du dernier bastion de Daesh à Baghouz en territoire syrien. À Damas, Bachar al-Assad a gagné la guerre et règne sur un pays dévasté, Christian Chéneau.
Dans son palais qui surplombe Damas, Bachar al-Assad semble intouchable ou plutôt inamovible. Aujourd'hui, il fait figure d'exception dans le monde arabe où de nombreux chefs d'État ont été éliminés au moment des révolutions de 2011 et plus récemment en Algérie et au Soudan. Grâce à ses alliés russes et iraniens, Bachar al-Assad a écrasé militairement ses opposants et a survécu miraculeusement. Autant dire qu'il n'a pas l'intention de lâcher du lest, estime Sami Kleb, éditorialiste libanais.
Pour lui, il n'y a plus d'opposition. S'il est obligé de faire quelques concessions, c'est pour aider les Russes dans leur élan international. Peut-être il ferait quelques gestes suite à des pressions de la part des Russes concernant la constitution, élargir le gouvernement, faire venir des opposants, accepté par le régime, pas ceux qui ont combattu sur le terrain, bien évidemment. Comme il a gagné, il a récupéré toutes les grandes villes ainsi que les banlieues de Damas. Je ne vois pas du tout que Bachar al-Assad va faire des concessions dans l'avenir.
Aujourd'hui, Bachar al-Assad règne sur un pays exsangue dont la démographie a été bouleversée. Plus de 7 millions de Syriens ont trouvé refuge à l'étranger, sans parler des déplacés internes. Pour Fabrice Balanche, géographe, spécialiste de la Syrie, il ne faut pas s'attendre à un assouplissement du régime syrien, bien au contraire.
Ce qui va se produire, c'est que là, on va avoir évidemment en Syrie une chape de plomb pendant 5 ans, une répression pour tuer vraiment toute velléité d'opposition. Naïvement, on pense qu'en n'aidant pas la reconstruction de la Syrie, ça va créer des problèmes économiques qui vont déstabiliser le régime et l'obliger à partir. Non, pas du tout. Après cette répression, après cette guerre, les gens qui seront opposés à Assad, ben, ils partiront.
Et selon lui, Bachar al-Assad pourrait même se faire réélire lors de la prochaine élection présidentielle prévue en 2021.
Après un conflit qui a déjà fait plus de 370 000 morts depuis 8 ans, Christian Chéneau. Un 10e vendredi de manifestation en Algérie. Il intervient après une série de limogeages de symboles du régime Bouteflika et de spectaculaires incarcérations dans des affaires de corruption présumées. Cela suffira-t-il à calmer la contestation? Rien n'est moins sûr, Leïla Berato.
Et en hashtag Hora Demokratia veut dire libérer démocrate.
Amazir Aïssa, 30 ans, a préparé une pancarte. Au feutre, il a résumé ses demandes: assemblée constituante, pouvoir au peuple, démocratie. Les incarcérations des hommes d'affaires cette semaine, ce n'est pas sa priorité.
Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je fais confiance à une seule justice, qui est la justice qui va émerger du peuple.
Des décisions peu indépendantes, c'est aussi le sentiment de Karim Boutata, un militant de 32 ans.
Le premier à juger, c'est pas l'homme d'affaires ou bien un simple directeur, mais c'est les responsables.
Pour Kamel Nemich, un militant de la région de Bouira, c'est le rôle d'Ahmed Gaït Salah qui n'est pas clair.
Les citoyens algériens sont toujours demandeurs du changement, même s'il y a des tentatives de brouiller les cartes, même s'il y a des tentatives avec les sorties du chef d'état-major, d'ailleurs on ne sait pas à ce qu'il en parle autant que chef d'état-major, autant que chef de l'État.
Ce jeudi, un rassemblement a eu lieu à Tizi Ouzou pour dénoncer l'incarcération de Issa Adrebrab, le patron de Cevital.
Leïla Berato à Alger pour France Culture. Le président chinois promet d'abolir les subventions qui faussent la concurrence comme une réponse de Xi Jinping à l'exigence américaine. Les États-Unis accusent Pékin de soutenir abusivement ses entreprises publiques. Les États-Unis, où Joe Biden se lance officiellement dans la course à la présidence. À 76 ans, l'ancien vice-président démocrate se pose en gardien d'une Amérique des valeurs comme un rempart à Donald Trump. Encore beaucoup de pluie aujourd'hui en France et entre les averses, nous aurons droit à des nuages. Pour les températures, on est entre 12 et 16 degrés à la mi-journée, jusqu'à 19 près de la Méditerranée. Et à 7h20 sur France Culture, le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Rosalie Lafarge.
Un cinquième volume de La Correspondance, le tome 2 des œuvres dans la Pléiade et plusieurs lectures contemporaines dont l'une est centrée sur la pensée de la Terre. Nietzsche est de retour.
Oui. Notre époque l'aurait d'ailleurs sans doute inspirée de sanglantes diatribes montées de fausses idoles et régimes de la post-vérité, retour en force des religions sous leur aspect le plus réactionnaire, emballement de la technostructure. Le magazine littéraire lui consacre un dossier où Bernard Stiegler évoque l'aspect prémonitoire de sa pensée, lorsqu'il souligne par exemple dans Le Voyageur et son ombre le caractère disruptif, ça c'est le mot de Stiegler bien sûr, de la combinaison de la machine à vapeur, du chemin de fer, du télégraphe et de la presse. Il analyse la destruction de la proximité qui en résulte et la transformation radicale du rapport au lointain, exactement ce que nous sommes en train de vivre porté à ses dernières extrémités. Le philosophe explore dans son dernier livre, Qu'appelle-t-on penser, avec un A, l'événement anthropocène au prisme notamment de la pensée nietzschéenne et la nécessité de rétablir le lien entre le devenir et l'avenir, lequel passe par une fidélité retrouvée à la Terre, comme le développe Pierre Montebello dans un ouvrage qui vient de paraître à CNRS Éditions, Fidélité à la Terre. L'auteur se réfère à un passage de Zarathoustra qui en appelle à cette disposition d'esprit, à cet engagement à la terre, je cite, à la terre, restez fidèles et n'ayez foi en ceux qui d'espérance supraterrestre vous font discours. Ce sont des contempteurs de la vie. Jadis, l'outrage contre Dieu fut l'outrage le plus grand, mais Dieu est mort. Faire outrage à la terre est maintenant le plus terrible et estimer plus haut les entrailles de l'insondable que le sens de la terre. Dans le contexte d'un réalisme qui s'affirme aujourd'hui en philosophie, le livre s'emploie à développer une métaphysique de la Terre à partir de Nietzsche, soit une hypothèse générale qui prenne en compte ce moment où la Terre est devenue l'enjeu d'une position métaphysique contre les puissants prétendants d'autrefois, Dieu, le bien, l'idéal, la vérité, le sujet. Nul doute que Nietzsche n'aurait souscrit à cette postérité philosophique, lui qui conseillait de n'accorder aucun crédit à une pensée qui ne soit venu en marchant. Et dans le Gai Savoir, à propos des paysages et des jardins sur les collines autour de Gênes, il exprime ainsi son immersion dans la nature. Nous voulons nous traduire nous-mêmes en pierres et en plantes. Nous voulons nous promener en nous-mêmes lorsque nous circulons dans ces galeries et ces jardins. Le Gai Savoir est la pierre de touche d'une période particulièrement féconde pour le philosophe entre 1876 et 1882, celle que couvre le tome 2 des œuvres publiées dans la Pléiade, après Humain, trop humain et Aurore. Nietzsche est entré dans sa vocation de philosophe intempestif et s'est éloigné de la philologie grecque. C'est aussi le début d'une vie de voyage et d'errance avec la conception du Zarathoustra. Invité à Rome par Malvida von Mesenburg, en avril 1882, Nietzsche fait la connaissance de Lou Andreas Salomé, dont il tombe amoureux. Il se rend en Suisse en compagnie de Paul Ré. On le sait, l'amitié de cœur ne tiendra pas et leur communauté d'études va se dissoudre. En juillet 1883, il se brouille définitivement avec Lou. Elle me manque, même avec ses défauts. Maintenant, c'est comme si j'étais condamné au silence ou à une sorte d'hypocrisie humanitaire dans mes rapports avec tous les hommes, écrit-il à son ami Franz Overbeck à la fin août. Le volume 5 de la correspondance que vient de publier Gallimard couvre la période qui va de janvier 1885 à décembre 1886. Comme l'indique Jean Lacoste, qui a supervisé cette édition, une page se tourne. L'affaire Lou Salomé semble surmontée, mais ses migraines ophtalmiques font de chaque ligne écrite sur la plus modeste carte postale une épreuve surmontée. Et malgré les nombreux destinataires de son courrier, il souffre d'une irrémédiable solitude, les brouillons de certaines lettres laissant présager les craquements à venir. Dans sa quête émouvante d'une communauté d'esprit libre, il cherche toujours des amis, des disciples, des héritiers, mais que de déceptions. On peut suivre notamment ses démêlés dans ce volume de correspondance, donc ses démêlés avec les éditeurs, ses efforts pour publier Zarathoustra, même à compte d'auteur. Tout ce que j'ai écrit jusqu'ici n'est que préambule. Pour ce qui me concerne, tout s'accompagne toujours de points de suspension, écrit-il dans une lettre à sa mère. Les éditions Rivage Poche publient l'anthologie de textes et aphorismes sous le titre « Hymne à l'amitié » où Zarathoustra est très présent. Dans sa préface, Guillaume Métayer relève que Nietzsche fut un solitaire entouré d'amis. En témoigne ce fragment posthume de 1877 « Amis, vous me croyez seul, accueillez donc le compagnon du solitaire. » Et pour éclairer l'apparent paradoxe, ce passage du chapitre sur l'ami dans Zarathoustra, « Je et moi sont toujours trop bouillants dans leur dialogue. Comment serait-ce supportable sans un ami ?» Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, l'Irlande, la situation après la mort de la journaliste Lyra McKee.
Et oui, c'était il y a une semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, Lyra McKee tuée par balle lors d'une émeute à Londonderry en Irlande du Nord. L'enquête se poursuit toujours. L'événement en tout cas a fait ressurgir les craintes du renouveau des Troubles, le conflit armé d'avant les années 2000, mais il a aussi dressé contre lui toute une classe politique présente aux funérailles. Alors entre l'engrenage de la violence ou le sursaut, dans quel sens ira la suite? On voit ça avec vous Agnès Maillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes professeur à l'université de Dublin, auteur dernièrement de l'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. L'IRA, donc cette armée républicaine irlandaise, ou plutôt la New IRA, ce groupe dissident apparu en 2016, qui revient sur le devant de la scène depuis quelques mois, puisque c'est lui qui est accusé de ce meurtre. On en parlait ici en janvier. Il avait commis un attentat déjà à la voiture piégée à Londonderry. Là, il s'agit donc d'émeutes de rue, d'abord dans le quartier de Creaghan, dans ce Bogside fief républicain. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'il y avait des émeutes ce jour-là? On parle d'une opération de fouille de la police?
Alors, et ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que la police, au cours des derniers mois, a trouvé un certain nombre de caches d'armes dans plusieurs endroits en Irlande du Nord, à deux ou trois occasions. Donc, on sait que la nouvelle IRA a, en tout cas, accès à un certain nombre d'armes. Et on sait aussi que le moment de Pâques est un moment clé, parce que c'est non seulement la commémoration du soulèvement de 1916, donc du début du processus d'indépendance de l'Irlande, et aussi on sait que c'est l'anniversaire de la signature des accords de paix de 1998 contre lesquels luttent les mouvements armés républicains dissidents. Donc ce sont deux dates qui se coïncident à ce moment-là et qui font que les tensions sont plus vives et la police cherchait effectivement des armes dans le quartier de Creaghan et elle a été reçue par un certain nombre de cocktails Molotov et des émeutes spontanées.
Oui, c'est ça. Donc ces accords du vendredi saint 10 avril et puis les commémorations du Easter Rising le 24 avril. Justement, donc là vous parlez de cache d'armes. Il y avait cette camionnette piégée le 22 janvier. Il y a eu également un épisode d'enveloppe piégée le 5 mars envoyée aux aéroports de Heathrow par exemple, et puis la gare de Waterloo, revendiquée également par la New IRA. Est-ce que là on peut parler d'une montée en intensité qui est calculée ou alors d'éléments non maîtrisés?
Alors je pense qu'il s'agit des deux à la fois, c'est-à-dire que il y a une volonté de la part de cette organisation qui s'est créée pour continuer la lutte inachevée, selon elle, de l'ancienne IRA. Il y a une volonté de monter en puissance, de faire monter la pression, surtout dans le contexte du Brexit et de ce vide politique qui existe en ce moment en Irlande du Nord. Mais même si évidemment le niveau d'alerte en Irlande du Nord n'a jamais été complètement descendu par les autorités, il reste relativement élevé par rapport aux autres régions du Royaume-Uni. Mais malgré tout, on peut aussi dire que cette armée paramilitaire est relativement limitée dans ses moyens d'action, parce que d'abord elle a très peu de soutien, elle a un certain nombre de membres, mais très peu qui font partie du noyau actif, donc elle a du soutien qui est relativement passif, si on peut dire ça. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est passé vendredi dernier, ce n'était pas une opération que cherchait à mener cette organisation. La journaliste a en fait été prise dans des émeutes et elle s'est pris une balle perdue.
Oui, c'est ça. Et alors, juste un mot sur l'enquête. Il y a deux jeunes qui ont été arrêtés dimanche, relâchés aussitôt, 18-19 ans. Une femme de 57 ans arrêtée également mardi, relâchée peu après. Est-ce qu'il y a du nouveau sur cette enquête ou rien pour l'instant?
En tout cas, rien qui pour l'instant ne transparaît dans la presse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des enquêtes qui sont extrêmement difficiles à mener. Il y a actuellement un dossier qui reste très sensible en Irlande du Nord, c'est justement celui des 3000 morts à peu près du conflit, dont pour lesquels il n'y a jamais eu de poursuites judiciaires. Donc en fait, c'est très difficile. Ce qu'on constate, c'est que sur les 3600 morts, il y en a 3000 pour lesquels personne n'a jamais été traduit en justice. Donc c'est très difficile de trouver les responsables et de les amener devant un tribunal.
Oui, de la même manière qu'il y a l'enquête sur Bloody Sunday, les événements de 72 qui ressurgit avec une première inculpation en ce moment. Deuxième aspect intéressant, donc là je le disais, il y avait toute la classe politique quasiment réunie lors de ses funérailles, également Theresa May. En quoi est-ce que ça a constitué, on pourrait dire, un électrochoc pour la communauté politique? C'est une posture, on pourrait dire, pacifiste? C'est unanimité des partis? Ou alors il faut y voir plus, parce que Lyra McKee, c'est une figure intéressante, aussi particulière en Irlande.
Absolument. Et le fait qu'il y ait eu le Premier ministre britannique, irlandais, le président et tous les chefs de parti nord-irlandais prouve à quel point il était important pour eux de manifester leur soutien à la société civile qui elle-même en fait s'est mobilisée à la minute même de ce drame pour signifier à ces organisations paramilitaires qu'elles n'en voulaient plus, qu'elles les rejetaient. Et donc ce qu'on voit et ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans le passé, c'est que c'est des éléments déclencheurs d'une mobilisation très forte d'une société civile qui en fait est très soudée contre la violence, qui cherche à dépasser ça. Alors il faut dire aussi que le prêtre qui a officié à l'enterrement de Lyra McKee, il a été extrêmement vigoureux dans ses propos. Il a pointé du doigt la classe politique en les accusant à demi-mot d'être en partie, en tout cas, responsable de l'inaction politique et de ce vide politique qui a pu générer ce type de violence.
Oui, alors quelle suite il pourrait y avoir au sens politique? On parle par exemple, je voyais dans la presse, d'une loi McKee's qui viserait à interdire notamment les manifestations paramilitaires, puisqu'il y a eu justement peu après, en début de semaine, des marches de ce nouveau groupe qui s'appelle Zero, et qui est un groupe qui dit la révolution n'est pas terminée. Voilà.
Alors il y a eu effectivement, parce qu'il commémore les événements de 1916, donc il y a eu des parades très relativement restreintes, mais il y en a eu une à Dublin avec des hommes et des femmes qui sont en tenue militaire, donc il y a une espèce une nostalgie de ce passé qu'il continue à mettre en scène tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de 1916. Effectivement, les autorités irlandaises sont un petit peu ambivalentes sur l'éventualité d'une nouvelle loi, parce qu'elles ne veulent pas non plus que ça puisse limiter les droits civiques des citoyens dans un sens plus global. Donc ça se discute, on ne sait pas très bien quelle tournure ça pourrait prendre. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir de nouvelles négociations. En tout cas, il semblerait que les deux ministres, le ministre des Affaires étrangères irlandais et la secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, ont l'intention d'annoncer dans le courant de la journée des négociations qui remettraient, qui feraient repartir les institutions nord-irlandaises, mais qui de toute manière continuent à poser problème puisque les deux principaux partis n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur un élément clé de ces négociations qui est la reconnaissance officielle de la langue irlandaise en Irlande du Nord.
Et ces deux principaux partis, Sinn Féin et DUP, qui ne s'entendent plus effectivement depuis deux ans, c'est ce vide politique dont vous parliez. Dernière chose alors, puisqu'il y a eu une réaction un peu unanime, pacifiste de la société et de la classe politique, est-ce que quand même un des principaux dangers par rapport à cette new IRS, c'est pas la décomposition sociale qui est sous-jacente et notamment pour les jeunes dans la région de Derry, région dans laquelle, je crois, les statistiques disaient que 5 des 10 municipalités les plus sinistrées sont dans cette région, entre Derry, Strabane, le nord-ouest de l'Irlande du Nord, quoi.
Ah, mais c'est un des gros problèmes et c'est une des grosses questions que n'a pas réussi à résoudre le processus de paix, ce sont ces poches d'inégalité, ces poches de pauvreté relativement extrêmes qui continuent à exister en Irlande du Nord, qui reste une des provinces les plus pauvres de l'ensemble du Royaume-Uni. Et effectivement, on voit aussi que cette pauvreté extrême a mené dans le passé à la radicalisation des jeunes, que ce soit du côté républicain, mais aussi du côté loyaliste. Donc on a aussi toujours ce danger permanent d'un affrontement entre les deux communautés. Donc c'est une question qu'il va falloir régler. Le problème qu'on a actuellement en Irlande du Nord, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc les questions sont réglées depuis Westminster, où là, il y a aussi la question du Brexit qui monopolise quand même l'attention de la classe politique. Donc on a un véritable une fuite en avant qui est très dangereuse parce qu'effectivement c'est le terreau de ce genre d'organisation paramilitaire qui peut vendre une espèce d'utopie à des jeunes qui finalement n'ont plus grand chose à perdre.
Oui, avec toujours ce danger ou fantasme d'un rétablissement de la direct rule, la loi britannique, l'administration britannique sur l'Irlande du Nord. Bah, écoutez, c'est à suivre de toute façon et merci pour ce matin pour vos explications. On suivra l'enquête. Agnès Maillot, professeure à l'université de Dublin et auteure de l'IRA et le conflit nord-irlandais, presse universitaire de Caen. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Bonjour à tous, c'est Sofiane. Retrouvez-moi dans le rôle de Gatsby le Magnifique les 2 et 3 mai 2019 à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Un concert fiction adapté du roman de Francis Scott Fitzgerald. Sur scène, je serai accompagné par les comédiens Rebecca Marder et Pascal Rénéric et bien sûr Issam Krimi, le quatuor Mona et Shems Bendali pour la musique.
Une adaptation inédite de Francis Scott Fitzgerald les 2 et 3 mai. Réservation maisondelaradio.fr. Événement, Tintin revient sur France Culture dans le Temple du Soleil.
Si j'ai bien compris, votre ami Tournesol a été enlevé.
En mettant à son poignet le bracelet de la momie de Raspar Capac, Tournesol a gravement offensé les derniers Incas. Cap sur le Pérou, enquête, course-poursuite, rite sacrificiel. Haddock et Tintin sauront-ils lever la malédiction?
Tournesol est à bord, capitaine. Je l'ai vu.
Le Temple du Soleil, une coproduction France Culture, Moulinsart et la Comédie Française, avec l'Orchestre National de France. Inédit, le feuilleton, cette semaine à 20h30 et dans un podcast exceptionnel sur franceculture.fr.
Je suis si heureux de vous retrouver. Mais dites-moi, que signifie cette sorte de mascarade?
Voilà, 6h57, on sort du Temple du Soleil pour retourner sur France Culture pour les matins. Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Alors, faut-il remettre l'humain au cœur du projet?
Mais évidemment, c'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron. Il veut remettre l'humain au cœur du projet. Il l'a dit hier soir, une convergence inattendue avec la tête de liste du Parti communiste français aux européennes, Yann Brossat, qui s'affiche en ce moment même en ville avec une affiche où il est écrit un slogan voisin, l'humain d'abord. Cette convergence des luttes entre le PCF et La République En Marche ne doit pas nous leurrer. Tout homme politique, hier, aujourd'hui ou demain, proposera de remettre l'humain au cœur de son projet. C'est a priori une bonne nouvelle, aussi une nouvelle singulière, car que serait un projet qui ne mettrait pas l'humain au cœur? Alors, s'agit-il par exemple d'une lutte des humanistes contre les humanoïdes? Bernanos, dans un livre que je cite finalement assez souvent, plaçait sa France contre les robots. Mais alors, Xavier, c'était plutôt métaphorique. Depuis cette parution, les robots ont-ils gagné du terrain? Il est vrai que l'on pourrait imaginer, par exemple, la partie des voitures. Alors moi, je voterai facilement pour la DS, 50 ans d'avance sur le reste de la production automobile. Mais il pourrait y avoir aussi un parti Apple, Xiaomi, Huawei, supposé donc de collusion avec l'étranger. À moins, et cette hypothèse est finalement moins onirique, que nos politiques se résignent à parler de l'homme quand ils n'ont plus rien d'autre à dire. Vous savez, c'est la phrase du pauvre Jean Bodin, auteur oublié parmi les humanistes de la Renaissance, il n'est de richesse que d'hommes. C'est à peu près la phrase la plus usée de la galaxie, la plus fausse aussi, puisqu'après tout, on peut vendre sa mobilette, mais pas son copain, preuve qu'il n'y a pas de richesse que d'hommes. Remettre l'humain au cœur du projet, voilà une proposition encore plus consensuelle que la guerre à la guerre, puisque les non-humains, jusqu'ici, sont assez discrets en matière de politique, et dans sa grande période de « et en même temps », Emmanuel Macron n'est pas allé jusqu'à proposer une politique favorable à l'humain et à la mécanique. Vous savez que le rire, selon Bergson, était de la mécanique plaquée sur du vivant. Peut-être pourrait-il naître aussi de la politique plaquée sur de l'humain.